On est de retour sur les ondes de BPM Sport et on est là pour un petit bout encore. Puis là, ça tombe bien parce qu'en plus de ça, on est là avec quelqu'un que vous connaissez sûrement, qui a été un coach de football ici pendant plusieurs années, entre autres avec la machine de Montréal de 91 à 92. Ça a été bref, mais ça a été mémorable et je suis sûr que lui aussi s'en souvient très bien. Jacques Dussault, bienvenue à l'émission.
Bienvenue, merci.
Jacques, est-ce que tes souvenirs de ces deux belles saisons-là sont intacts?
Ben, c'est une bonne question parce que y a des bouts que j'aimerais oublier. Il y en a d'autres que j'aimerais garder. Ça, c'était de la folie furieuse. Ça, faut bien l'admettre parce que des journées de travail de 18 heures à 7 jours par semaine. C'est pas mal intense, des voyagements. À un moment donné, je me souviens d'un voyage, on est parti de Montréal, on est allé jouer à Londres. Le match suivant, on jouait en Allemagne. Après ça, on est revenu ici pour aller jouer à Sacramento, en Californie. Donc, un décalage en trois, même pas en 15 jours, un décalage d'heures, de 8 heures. Donc, c'était assez... C'est assez spécial.
Ouais, ben partons du début, Jacques. Cette ligue-là, la World League, est arrivée un peu de manière inattendue. C'était, je pense, que c'était la Ligue nationale de football qui voulait tenter des choses. Et toi, à l'époque, si je me trompe pas, Jacques, t'enseignais à l'université au Nouveau-Brunswick, si je me trompe pas à ce moment-là.
Je coachais avec Montalison.
Ouais.
J'étais en voyage en Floride. Puis j'ai reçu un appel téléphonique me disant qu'il y a des gens qui me cherchaient. On est revenu du côté de Sackville, au Nouveau-Brunswick. Et puis à ce moment-là, j'ai reçu un appel. Là, je me suis dit, bon, ben, ça a l'air d'être un peu plus concret. Mais le lendemain, quand j'ai reçu mes billets, pour aller à Dallas pour une entrevue qui ça a duré 7 ou 8 heures, cette entrevue-là. Toutes sortes de questions. Puis là, finalement, on m'a expliqué comment ça marchait. Puis on m'a dit que j'avais l'emploi. Le but de la Ligue, en somme, c'était, au lieu d'avoir ton troisième corps arrière, jamais avoir d'action, c'est-à-dire de juste prendre des répétitions à l'occasion. Durant les sessions d'entraînement, on sait que ça dépend des corps arrière. Dans la NFL, il y en a qui ils veulent avoir toutes les répétitions. Il y en a d'autres, même quand ce sont les équipes adverses, parce qu'on sait que l'attaque, à un moment donné, adverse est comme structurée avec nos propres joueurs pour donner une meilleure occasion de se préparer à la défensive et ainsi de suite. Il y en a qui aime aussi lancer le ballon. C'est sûr que c'est au camp d'entraînement là, que ça devient lourd et ces carrières-là ont un peu de répétition, mais pas plus que ça. Fait qu'on voulait leur donner une chance de voir de l'action. Puis en plus de ça, on voulait tenter le marché du côté de l'Europe. C'est pour ça que la première année, c'est Londres qui l'a emporté. La deuxième année, vu que les codes d'écoute ont tombé aux États-Unis, on connaît nos amis du Sud, s'ils gagnent pas, ils ne s'intéressent pas trop. Et puis là, finalement, on a mis la clé dans la porte.
Oui, mais avant ça, il y a eu quand même de très bons moments. Tu as parlé, Jacques, du... bon, tu t'en vas à Dallas, tu rencontres les gens de la Ligue, il y avait quand même un enthousiasme là qui était là. Est-ce que tu as senti, Jacques, parce que je me souviens à l'époque, on avait l'impression, on se demandait, est-ce que c'est un genre d'audition pour Montréal? Est-ce que tu as parlé, là, on teste des marchés. Bon, est-ce que tu as senti que la Ligue nationale de football voulait un peu tester le marché de Montréal?
Ouais, en aucun temps.
Non.
Parce que c'était clair que la NFL ne voulait pas venir à Montréal. C'est sûr que il y a des gens qui ont laissé les beaux rêves s'étaler à gauche et à droite, mais c'est pas là qu'on veut aller. Où on veut aller, on le voit présentement. avec tous les matchs qui se jouent en Europe, c'est-à-dire à Londres. Et puis on en a vu même du côté du Mexique, parce que c'est des bassins qui sont immenses. Tu sais, tu vas jouer un match de football à Londres, là, dans un rayon de je sais pas, moi, à peu près 2-3 heures de déplacement. C'est quasiment tu touches à 400 millions de personnes. Là, tu t'en viens à Montréal, t'es pas loin de Buffalo, t'es pas loin de d'équipes qui sont déjà établies dans la NFL. Le marché est pas tellement gros. Je pense pas que ça a été prévu. Du côté de la NFL. On voulait tenter le marché du côté européen, puis nous autres, on s'en est aperçu quand on était allé jouer, il y avait un gros engouement. Mais à Montréal aussi, là, parce que faut pas oublier qu'on avait notre camp d'entraînement, nous autres, à Orlando, en Floride. On n'avait aucune idée de ce qui se passait à Montréal. On travaillait, on repêchait des joueurs, on bâtissait notre équipe. On se levait le matin, on allait voir, disons, des joueurs de ligne à l'attaque faire différents éducatifs. L'après-midi, on allait repêcher des joueurs. Le soir, on se mettait à évaluer ce qu'il y avait comme joueur, parce que le lendemain, ça allait être les receveurs qu'on allait voir, puis ça n'arrêtait pas. C'était comme ça qu'on fonctionnait. Et puis, on s'est bâti une équipe. Mais quand on est arrivé ici, le premier match, c'était plein au Stade olympique. Ça se passe à ce moment-là. La capacité, c'est à 53 000 personnes. Et ça, je l'oublierai jamais. Là, c'était la folie furieuse. Puis aussi, ce qui était très, très, très impressionnant, c'est qu'on voyait que c'était des gens qui connaissaient le football américain. À un moment donné, on faisait un botté qui sortait en touche à la ligne de 3, puis les gens se levaient, puis ils étaient contents, ils applaudissaient. Ils comprenaient les règlements du football américain, parce qu'il faut bien se l'avouer, là, le football américain et le football canadien, c'est deux sports totalement différents. C'est sûr, on se plaque, on lance le ballon, il y en a qui courent avec le ballon, mais les règlements sont pas les mêmes, les dimensions du terrain sont pas les mêmes. Il y a plus de joueurs au football canadien. Tu sais, je pourrais continuer de même. C'est pas la même façon de donner les points. Je pourrais continuer de même pendant des heures et des heures, mais je suis pas sûr que ça t'intéresse. Je suis pas sûr que ça intéresse les ouais. gens qui nous écoutent.
et je me souviens, Jacques, tu m'as conté une anecdote déjà, tu as parlé des bottés. Vous aviez un botteur suédois du nom de Bjorn Nittmo, qui était qui était une célébrité. On le voyait à l'émission de David Letterman. Il s'en vient ici. Et là, lui, il veut retourner dans la NFL, clairement. Là. Il n'a pas le goût de rester ici tant que ça. Puis il y a eu un match, je me souviens que tu m'as conté, qu'il y avait eu une consigne qu'il n'a pas trop respectée parce qu'il pensait à lui en premier.
Ah, pas de ça. oui, t'as raison. C'est contre Orlando. On mène, puis c'est une très bonne équipe, Orlando. Et puis, il reste à peu près 15 secondes à jouer. Tout ce qu'on lui demande, je lui demande de botter le ballon au sol pour enrayer tout le synchronisme qu'il peut avoir sur un retour de beauté d'envoi. Puis là, ben, lui, il veut garder sa moyenne de ce qu'on appelle en langage de football touchback, c'est-à-dire que le ballon est remis en jeu à telle ligne. À ce moment-là, ça paraît mieux dans la statistique. Ben, il s'en va botter ça direct dans les mains parce que l'autre côté, il avait le meilleur retourneur de la ligne. Le gars, il a traversé le terrain. On est allé perdre en prolongation. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'est parce qu'il y a quelques-uns des assistants qui avaient à cette époque-là, eux autres, étant donné que j'avais un accent, ils pensaient que Nittmo, il n'avait pas compris. Bien sûr, je ne m'étais pas bien exprimé. D'un coup, c'était rendu, c'est de ma faute. Il y en a un qui a fait une remarque. Que je m'en souviens, là, tu me crains un peu. Fait que, non, ouais. Fait que le match d'après, je l'ai mis à côté de moi, cet assistant-là. Il disait, tu sais, dis-y d'aller, de botter le ballon profondément à gauche. Après ça, il disait, dis-y de botter ça sur la, les traits assurés à droite. Après, Denis a compris.
Ça a fini par marcher. Et tu parlais, Jacques, de l'engouement qu'il y a eu. C'est ça, là, je pense que c'était 53 000 personnes le premier match. Est-ce que tu pensais que ça allait rester, cet engouement-là? Est-ce que tu pensais que c'était ici pour rester, ce club-là?
Nous autres, on avait les consignes de la Ligue, là, c'était clair. Eux autres, ils voulaient que l'Europe gagne en premier, parce que pour que ça soit bien vu du côté des Américains, surtout parce que ça couvert par des bons réseaux américains, il fallait que ça soit des équipes américaines. Là, fait que la deuxième année, c'était Sacramento qui a joué contre Orlando en finale. Moi, je me souviens, on a eu un meeting, j'ai levé la main, j'ai dit, ça va être quand le tour de Montréal là-dedans, là, parce que nous autres, la deuxième année, Richard, là, je me suis fait envoyer n'ayons pas peur des mots, des bombes. J'avais 6-7 bombes, puis on ne pouvait pas s'en débarrasser. La première année, j'avais été capable de faire un certain ménage, mais la deuxième année, là, ça c'était beaucoup, beaucoup... c'était pas tellement agréable. Puis pour ouvrir une parenthèse, je suis encore en contact avec Katie Dunn, qui était rapproché pour nous autres. On se texte régulièrement, il reste... en Georgie, c'est un ancien de Clemson. Moi, je réalisais pas, là, c'est une super vedette à Clemson, puis là, je vois ça, là, avec les textos que je reçois, puis toutes ces choses-là, mais... toute une expérience.
Mais quand tu dis des bombes, Jacques, tu veux dire des joueurs qui avaient des problèmes de comportement?
Ah, des problèmes de comportement, je me souviens, on en repêchant. Puis dans son dossier, c'est marqué que c'est un gars qui a des problèmes avec l'alcool. Que je dis au gérant général de l'époque, il dit non, tu peux pas amener ce gars-là à Montréal. À Montréal, c'est gros par semaine, tu peux trouver des places pour moi. C'est pas la même perspective que... disons les choses telles qu'elles sont dans le sud des États-Unis, ben bien d'autres endroits, les Noirs aussi, les Afro-Américains, il n'y a pas de problème. J'ai dit, on ne gardera pas longtemps, mais comme le fait, il est disparu pendant 5 jours de temps. On ne l'a plus revu. Puis là, il est revenu un bon joueur, c'est de valeur. Tyron Jones, je me souviens bien de son nom.
Donc, il y avait des joueurs comme ça qui avaient ces problèmes-là la deuxième année, puis ça fait en sorte que ça s'est défait un petit peu tranquillement, là.
Ça s'est défait. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as des joueurs qui minent l'esprit d'équipe, puis tu peux pas t'en débarrasser?
Ouais.
Là, les autres qui étaient là l'année d'avant, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ouais, mais pourtant, tu t'es débarrassé de lui, puis là... t'es pris, t'as pas le choix. Puis en plus de ça, comme bonus ou boni, c'est la fameuse, les fameuses émeutes qu'il y a eu à Los Angeles, à ce moment-là, avec l'histoire de Rodney King. J'avais beaucoup de joueurs qui venaient de Los Angeles, qui étaient blancs, puis j'avais des Afro-Américains aussi qui étaient là. Je rentre dans le vestiaire, puis à l'entour du vestiaire, des demi-défensifs, c'est tout du ruban gommé, comme quoi t'as pas le droit de rentrer là. Puis là, la tension était immense. On s'amène sur le terrain pour pratiquer, puis je pense qu'il y avait 4 joueurs. Les autres ne voulaient pas, les autres, en tout cas. Finalement, c'est... Pete Manley, qui avait une super de carrière avec Détroit dans la NFL, c'était tout le temps un gars pour retourner les bottes. Il était juste là parce qu'il aimait ça jouer au football, qui avait été leur dire, lui, il n'est pas de même, là, il n'est pas, J'ai jamais été raciste ou quoi que ce soit. Ce sont des choses qui se sentent, ça, Richard. Les gens qui sont racistes, les autres qui ne le sont pas.
Ouais. Est-ce que, Jacques, est-ce que tu nous permets de prendre une petite pause?
Ben oui.
OK, on va prendre une pause et on revient tout de suite avec toi pour la suite de nos souvenirs et de cette discussion sur la machine de Montréal. Donc voilà, on fait une pause et on revient avec Jacques Dussault. On poursuit notre discussion sur la machine de Montréal et on poursuit nos souvenirs avec celui qui a été le coach, Jacques Dussault. Et Jacques, avant la pause, tu parlais un petit peu des problèmes qu'il y a eu dans le vestiaire lors de la deuxième et dernière saison. Toi, tu étais là, évidemment, tu étais le coach, puis les assistants aussi, je me souviens, ont commencé à dégringoler un petit peu. Est-ce que déjà on pouvait sentir que c'était la fin, là, déjà à la saison numéro 2, Jacques?
Non, parce que c'est la Ligue au complet là, qui a déclaré terminé suite à une décision de la Ligue nationale de football. On s'est rendu compte qu'il fallait se déplacer en Europe. C'est ça que ça s'est appelé par la suite la NFL Europe. Fait que on n'a pas vu venir ça, sauf les bons, puis ceux qui avaient des amis au sein de la direction de la Ligue, mais non, pas plus que ça. Un des problèmes aussi, pour dire les choses telles qu'elles sont, moi, j'avais pas la compétence qu'il fallait dans plusieurs aspects pour diriger une équipe comme ça. J'avais aucune connexion avec des gens des États-Unis, de la NFL et quoi que ce soit. Partout ailleurs dans la Ligue, tout le monde en avait. Fait qu'on contournait les règlements parce qu'on était supposé être jumelé à trois équipes de la NFL, mais il y en a qui allaient en chercher dans d'autres équipes pour avoir justement une meilleure équipe, c'est le cas de le dire. Et tout le monde se connaissait. On s'est fait envoyer par Buffalo, des gars qui n'étaient même pas capables de mettre un pied devant l'autre, pas plus compliqué que ça. Là.
Ah ouais. Hein?
Ils entendent parler, c'était les meilleurs joueurs qui avaient jamais joué au football. Ça avait été les derniers à être retranchés au camp d'entraînement. Et c'est ça, c'était pas le cas aussi. Ils pensaient que nous autres, ici, à Montréal, ils nous traitaient un peu comme les Allemands ou les Hollandais ou les Espagnols, ainsi de suite, qui n'ont aucune expérience de football. Nous autres, on a, en plus de ça, on a l'expérience de médicale qu'il fallait. Mais tu te souviens, un des gérants généraux que j'ai eu à l'époque, Il voulait envoyer, quand des gars étaient blessés, il les envoyait à Plattsburgh. Nous autres, nos médecins, c'est tous les mêmes personnels de médecins que les Canadiens de Montréal avaient. Là, j'aurais dit, gars, respirez par le nez, là. Ces gars-là, ça prend soin de gens qui gagnent pas mal d'argent, puis des athlètes assez exceptionnels, mais tu sais, c'est pas... C'est pas une mentalité très, très, très ouverte là, quand on pense à nos voisins du Sud.
Ouais.
C'est pas pour rien qu'ils disent toujours pourquoi aller ailleurs quand on a le meilleur chez nous. Mais,
ouais.
Ils vont finir par s'en apercevoir. Bon.
et dans les gradins, ça s'est je pense que les partisans aussi se sont rendus compte de ça, hein, que le produit finalement était peut-être pas si bon, parce qu'on a vu les assistants chuter assez rapidement aussi, Jacques.
Ben, je pense que dans tous les sports, les partisans jugent une chose, si tu gagnes ou si tu perds.
Mm-hmm.
Fait que là, on s'est mis à perdre pas mal plus souvent qu'à gagner. Donc ça, c'est pas, excuse mon anglicisme, c'est pas winner à Montréal, ça.
Oui, ouais, c'est pas gagnant, effectivement. Et à quel moment, Jacques, ça s'est terminé? Et comment ça s'est terminé, exactement?
Pour moi, pour la Ligue, ben, les gens étaient au courant. Et puis, là, à un moment donné, tout le monde était averti, sauf Moi, j'ai pas été averti. Et puis, j'ai voulu faire toute une histoire avec ça. Puis, parce que disons que j'avais eu des petites confrontations avec certaines personnes, peut-être pas les bonnes. Mais à un moment donné, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une qualité. Si tu me demandes une question, donne-moi pas de réponse en même temps, parce que ça marche pas. Mais ça vient toujours, ça te rebondit au visage à un certain moment donné. Donc, ça a été annoncé pour tout le monde, sauf que moi, j'ai perdu à peu près trois mois de salaire. Tout le monde a été payé jusqu'à la fin de leur contrat, mais pas moi.
Alors, donc, c'est ça, ils n'ont pas honoré la fin du contrat, exactement?
Ben, je veux dire, ils m'ont dit démissionne, puis là, tout doit être correct. Moi, je n'ai pas question que je démissionne, mettez-moi à part. Et c'est ça qu'ils ont fait.
OK. Ça s'est terminé comme ça.
Voilà.
Ouais. Et puis après 92, ça a été la fin de ça. Tu l'as mentionné, la Ligue est devenue en fait NFL Europe. Là, pendant quelques années, on a continué à jouer, surtout en Allemagne, là, de mémoire. Qu'est-ce que tu conserves, Jacques Dussault, de ces deux années-là? Quel souvenir tu conserves de la machine de Montréal et des deux années?
Bien, le premier, c'est que j'ai eu l'opportunité de rencontrer la bonne personne. Au niveau des joueurs, tu sais, il y avait des bons gars là-dedans, il y avait des bons joueurs. Il y a Chris Moore, qui a eu une très belle carrière avec les Bills de Buffalo, notre batteur. Il y en a eu d'autres qui a joué pour les Steelers de Pittsburgh, Richard Shelton, comme demi-défensif, ainsi de suite. Tu vois, Tracy Semiens, qui a joué avec Kansas City. Tu voyais tout de suite tous ceux qui étaient travaillants sur le terrain, tous ceux avec qui tu n'avais pas de problème, c'est comme par hasard les autres qui se sont retrouvés dans la NFL.
Ouais.
Les autres, on n'a plus jamais entendu parler.
Ceux qui avaient de la misère à mettre un pied en avant de l'autre, ça n'a pas été plus loin.
Oui, mais je pense qu'il y en a encore une couple qui sont à Montréal.
Ah, c'est vrai?
Non, je ne sais pas. Okay. La misère à mettre un pied devant l'autre.
ils ont jamais été capables de sortir.
Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Ils tournent en rond.
Bon, écoute, Jacques, malgré tout, on garde des bons souvenirs. Puis je pense que les gens qui ont vécu ça gardent aussi d'excellents souvenirs de ces deux années-là de la machine de Montréal. Et merci beaucoup ce matin, Jacques Dussault, pour les souvenirs et les anecdotes.
Bien, ça me fait plaisir, puis je te remercie d'avoir pensé à moi.
Bien, ça a été un plaisir. Merci, Jacques.
OK, salut.
Salut, bye-bye. Jacques Dussault, qui a été le coach de la machine de Montréal pendant ces deux années. Ça a été bref, mais ça a été magique du côté du Stade olympique. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après.